Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et aujourd'hui, eh bien nous avons la chance d'accueillir Samuel Pommeret, qui est chargé de mission du CCF des Terres solidaires dans la région Grand Lac, Éthiopie. Bonjour Monsieur Pommeret, merci d'être à Radio Grand Ciel et puis merci surtout de venir nous parler de ces réalités que vous côtoyez professionnellement et donc de nous donner un écho bien plus direct de ce que je peux faire d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est un chargé de mission du CCFD ?
Bonjour, merci de votre accueil. Chargé de mission au CCFD, c'est la personne qui, au sein du service du partenariat international, est en charge du suivi et de la gestion des projets dans une zone géographique. Alors pour ma part, je travaille sur l'Afrique des Grands Lacs, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, et je suis également l'Éthiopie. Chargé du suivi des projets, c'est essentiellement d'abord du dialogue avec les acteurs locaux. Parce qu'une des particularités du CCFD, c'est que l'on n'arrive pas avec nos projets que l'on fait exécuter, mais on repère, on identifie, on dialogue et on construit avec des acteurs des sociétés civiles des projets et on les appuie techniquement, financièrement, stratégiquement. Ces acteurs, ça peut être des acteurs d'église, évidemment, des commissions diocésaines, des commissions de l'église au niveau national, mais c'est aussi et surtout, et ça c'est une spécificité du CCFD, des acteurs de la société civile, des mouvements paysans, des réseaux de jeunes, des syndicats. On a une variété de profils qui est particulièrement intéressante et qui montre la diversité des sociétés locales.
Oui, donc quand nous voyons l'Afrique, en fait, c'est faux, quoi. En fait, il y a autant de diversité dans ce continent qu'il y en a en Europe.
Exactement.
L'Afrique, ça n'existe pas. Il existe des personnes et des paysans.
Exactement.
Et des gens qui vivent et qui...
Tout à
et
fait.
Qui se battent pour faire...
Des contextes extrêmement variés avec vraiment des spécificités locales.
Alors, donc, nous allons parler un peu de ces programmes, puisque la faim est une réalité, et ben, le CCFD, n'est-ce pas, Comité catholique contre la faim, ça c'était sa première vocation, qui existe toujours, c'est bien dommage, mais il y a toujours 830 millions de personnes qui ont faim, et donc, là, quelque chose à faire. Parlez-nous-en.
Ah oui, tout à fait. La faim était notre mission première et elle l'est plus que jamais. Le CCFD se mobilise et travaille sur les causes structurelles de la faim. Aujourd'hui, non seulement la faim n'a pas régressé, mais elle repart à la hausse. C'est plus de 800 millions de personnes, comme vous le dites. C'est plus de 23% de la population africaine, soit 230 millions de personnes à peu près, qui a connu la sous-nutrition en 2017. Ça, ce sont les chiffres de la FAO. Plus de 30% de la population en Afrique de l'Est. La faim dans le monde, c'est 2 milliards aussi de personnes qui n'ont pas assez de vitamines et de nutriments essentiels comme les sels minéraux et qui connaissent ce qu'on appelle la faim cachée. Cette faim cachée, elle cause des maladies, des problématiques de retard de développement, notamment chez les enfants. Et ça, plus que jamais, c'est une réalité. Dans un monde où à la fois il y a l'abondance et la surabondance d'un côté et de l'autre côté, une faim qui est toujours présente.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur la bande FM et sur Internet, en direct ou en podcast, grâce à notre site www.radiograndciel.fr.
Alors, une faim toujours présente, et face à cette faim, oui, qui existe aussi chez les paysans, ça c'est quand même quelque chose.
Oui, les premières victimes de la faim sont des paysans, tout à fait, c'est aberrant.
Comment vous pouvez soutenir des projets qui permettent de mieux vivre, et en tout cas de sortir de la faim ?
Alors,
parlez-nous de ces projets, voilà.
Voilà. Évidemment, l'action du CCFD au fil des années a évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, le CCFD travaille avec ses partenaires dans les pays, mais aussi avec ses alliés au niveau européen. On a entrepris une réflexion finalement sur le modèle agricole que l'on souhaite promouvoir. Et on a une intime conviction, c'est que ce modèle agricole doit être autonome, c'est-à-dire s'appuyer sur la valorisation des ressources locales pour limiter la dépendance des paysans à des intrants extérieurs, que ces paysans soient en mesure d'avoir accès à la terre, d'avoir accès aux semences, d'avoir accès à des intrants organiques pour valoriser leur terre et pas dépendre des engrais chimiques. On veut aussi une agriculture économe, une agriculture qui renforce l'économie familiale, puisque le CCFD, notre postulat, c'est l'agriculture paysanne et l'agriculture familiale notamment. Puis c'est une agriculture aussi qu'on souhaite socialement inclusive, c'est-à-dire une agriculture qui ne laisse pas les femmes de côté, qui ne laisse pas les jeunes de côté, une agriculture qui favorise un lien de transmission intergénérationnelle entre paysans, et puis une agriculture qui soit résiliente aux crises politiques, résiliente aux crises économiques, mais surtout résiliente au changement climatique. La variabilité climatique, c'est plus que jamais une réalité, et je dirais que le pire est sûrement devant nous. Le pourcentage de pays confrontés à trois extrêmes climatiques dans la même année a progressé de 160% en Afrique. C'est-à-dire que, voilà, dans la même année, un paysan peut être confronté à trois extrêmes climatiques. Imaginez les répercussions que ça peut avoir sur son activité agricole.
Donc ça veut dire qu'il va être obligé de refaire étape de semence, par exemple.
Ça veut dire que s'il a les moyens, il faut qu'il relance des semences. Ça veut dire qu'il va se retrouver en insécurité alimentaire, qu'il va avoir des périodes où il va pas être en mesure de se nourrir quotidiennement. Et ça, c'est une réalité. Hein. Je l'observe régulièrement avec les partenaires dans la région des Grands Lacs. C'est des paysans qui vont être obligés d'abandonner leurs terres, de partir, parce que ces terres sont dégradées, ces terres ne sont plus productives. Donc voilà, nous on réfléchit avec nos partenaires, les mouvements paysans, à ce modèle que l'on fait reposer aussi sur la promotion des pratiques agroécologiques, parce que ce sont un ensemble de pratiques qui sont abordables, qui sont facilement diffusables et qui donnent vraiment des résultats pertinents et qui sont approuvés par les paysans eux-mêmes.
Donc c'est là-bas, les paysans qui approfondissent leurs techniques et qui vont pouvoir, à partir de ces propres techniques, de leurs propres semences, de leurs propres terres, se développer.
Exactement. C'est eux qui réfléchissent aux modalités d'accès à la terre. Alors, dans les Grands Lacs, il y a une crise foncière massive et donc avec des surfaces extrêmement exiguës, avec une population, une forte pression démographique. Donc, il y a une crise foncière. Eh ben, les mouvements paysans avec lesquels nous travaillons, réfléchissent aux modalités d'accès à la terre, d'une meilleure répartition de la terre, d'un meilleur accès de la terre pour les femmes et les jeunes notamment. Ils réfléchissent aussi à la promotion, à la conservation et à l'amélioration des semences locales, et puis à la diffusion et à l'amélioration de pratiques ou de pratiques existantes déjà localement, ou même à l'importation de nouvelles pratiques. Donc c'est voilà comment produire, je dirais, massivement de la fumure organique, du fumier, comment mieux protéger les collines contre l'érosion, comment mieux gérer l'eau, etc. etc. Et cet ensemble de pratiques et cette réflexion sociale, et ça c'est extrêmement important, finit par composer un modèle agroécologique local. J'insiste bien sur la dimension locale, on n'arrive pas avec une approche dogmatique. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un modèle pour l'ensemble des régions sur lesquelles on travaille, ça serait faux. Comme vous le dites, l'Afrique, c'est extrêmement varié géographiquement. Donc voilà, c'est vraiment réfléchir à des solutions locales.
Donc par exemple, dans la région des Grands Lacs, si le terrain est émietté, on va proposer aux gens de travailler ensemble. Comment ça se passe concrètement ?
Voilà, tout à fait. Ça peut être, d'abord oui, en effet, avoir des logiques d'exploitation commune de certaines terres. Plutôt que de diviser une terre et d'exclure les filles de l'héritage, il y a tout un travail de sensibilisation pour expliquer que cette terre ne doit pas être divisée, que cette terre ne doit pas échapper aussi aux filles. Donc ça peut être une option.
Donc ça divise encore plus du coup.
Exactement, c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'une terre qui fait déjà 0,5 ou 0,6 hectares, si vous la divisez en 5, évidemment ça va pas être suffisant, quel que soit le modèle développé dessus. Donc il faut éviter cet émiettement, il faut favoriser aussi toutes les coopérations et les interactions entre les exploitants. Il y a aussi dans les Grands Lacs, dans certaines régions du Nord Congo, la problématique de grands propriétaires qui ont d'immenses surfaces alors qu'à côté il y a des femmes sans terre. Donc on travaille à la mise en place de contrats sociaux locaux qui intègrent la coutume, qui passent par le dialogue, où ces grands propriétaires acceptent de mettre à disposition des femmes pendant un certain temps une terre qui va être aménagée, qui va être valorisée, où les femmes vont planter des espèces fertilisantes. Et finalement, c'est créer des contrats de gré à gré, du contrat social au sein de sociétés qui sont profondément divisées. Et dans un contexte, là je parle pour le Congo, où l'État est largement absent. Donc voilà, ce sont des modalités qu'imaginent nos partenaires. Et nous, on joue le rôle d'aiguillon, on joue le rôle de conseiller, et puis on favorise cette mise en relation. Et ça, c'est extrêmement important, que les paysans puissent se parler de région à région, de pays à pays, parce que l'échange de pair à pair est une vraie source d'enrichissement et de réflexion commune.
Et par exemple, puisque vous évoquez l'entente entre les femmes et leurs grands propriétaires, ça veut dire quand même qu'il y a des contrats qui vont sur la durée, parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse aménager une terre et puis tous les ans la faire tourner.
Alors tout à fait, c'est toujours la réflexion sur le modèle. Il y a des cultures à cycle court qui, de 6 mois en 6 mois...
Ça peut changer de propriétaire.
Tout à fait. Et puis, il y a des cultures, notamment quand on parle de la plantation d'arbres fruitiers, où il va falloir se projeter sur un temps long. Donc aujourd'hui, c'est vraiment... Au début, on est parti dans des logiques un peu d'urgence, de femmes qui étaient déplacées par le conflit, qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient pas de quoi faire manger leur famille. On est parti sur des cultures courtes, de proximité, puis on a commencé à envisager des contrats de 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, une réflexion, c'est comment est-ce qu'on pourrait finalement avoir des contrats qui seraient sur 5 ans, 6 ans. Et l'intérêt, c'est encore une fois, c'est recréer du dialogue dans une société fragilisée. Et les grands propriétaires, s'ils ont pu être hostiles à la démarche, finalement, peu à peu, il y en a de plus en plus qui rentrent dans la dynamique. Parce qu'ils y voient leur intérêt.
Ils y voient aussi l'intérêt. Donc ça, c'est... Ici, on appelle ça gagnant-gagnant. C'est ça aussi.
Ça serait un peu du gagnant-gagnant, tout
du
à
gagnant-gagnant.
Fait.
Du gagnant-gagnant.
Ouais, ouais.
Radio Grand Ciel.
Terre solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pousser, entrant dans les choses concrètes?
Alors, qu'est-ce qu'on fait pousser? Déjà, on va faire pousser des légumineuses. Ça, c'est très important. La base alimentaire dans la région des Grands Lacs, c'est le haricot. Ce haricot, il est essentiel pour la nutrition. C'est un mets aussi très apprécié. Donc, on va faire du haricot, on va faire des courges, on va faire du maïs, on va faire du sorgho, on va faire de l'amarante, une sorte d'épinard. On va surtout faire des cultures qui vont pouvoir rentrer en interaction l'une et dans l'autre. Par exemple, le haricot va pousser autour des pieds de maïs pour favoriser sa montée. On va favoriser des cultures qui recouvrent le sol pour éviter l'érosion. On va aussi introduire en effet des cultures fruitières, par exemple les fruits de la passion, les maracujas, que l'on fait pousser au-dessus des compostières. Les compostières bénéficient de l'ombre apportée par le maracuja, ce qui favorise la dégradation du fumier. Et puis, elles favorisent la croissance du maracuja, c'est un fruit qui est extrêmement intéressant pour la nutrition. Donc l'idée, c'est de diversifier sur des surfaces petites. Voilà, c'est un modèle, on appelle un modèle, je dirais, écologiquement intensif, et puis intensif en main-d'œuvre aussi. C'est-à-dire que c'est plus juste la femme qui travaille la terre, mais c'est vraiment la femme, son époux. Donc ça implique un dialogue, une planification et un dialogue franc au sein du foyer, mais aussi les enfants. Que les enfants, peu à peu, comprennent que cette activité agricole n'est pas juste une activité de survie, mais bien un postulat social, une activité qui sera viable à condition que les sociétés paysannes se renforcent et avancent ensemble. Et ça, on remarque assez rapidement des effets. On travaille avec une organisation qui s'appelle Ouaki Nord Kivu. Donc ce sont 5000 femmes des territoires en guerre du Grand Nord de la RDC. Et c'est des femmes qui, en quelques années, ont montré d'abord leur capacité à faire les choses, à innover, et puis à monter en capacité. C'est pas juste avoir un petit potager pour la famille, c'est vraiment développer des chaînes de valeur économique. Donc après, c'est comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on distribue, etc. Donc c'est vraiment, quand on voit que ce qui manque d'abord, c'est la première chose, c'est relever la tête et se dire on peut y arriver ensemble en tant que paysanne. Et puis après, c'est des appuis pertinents, des appuis techniques pertinents et puis bien sûr des financements, puisque le CCFD finance ces organisations partenaires.
Eh bien, le temps s'écoule pour cette émission Terre solidaire. Et dans notre prochaine émission, nous allons poursuivre pour voir justement comment cette agroécologie paysanne est soutenue par les associations, par le CCFD, mais aussi comment elle agit dans la société, comment c'est pris par les autorités et comment la société la soutient ou la combat. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.